Vous écoutez
RMC. RMC, jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Karine Galli.
On est ensemble jusqu'à minuit sur RMC en direct avec Kevin Diaz et avec David Guzman. On vous rappelle que l'on a vécu la première journée de Ligue 2, le retour de notre championnat avec Saint-Etienne qui a cartonné 3-0 sur la pelouse de Sochaux. Saint-Etienne qui est en tête après cette première journée, un succès donc 3-0. Saint-Etienne qui débute parfaitement ce championnat. Bravo au nouveau coach Yann Catro. Nantes a été battu par le Red Star 1-0. Première réussie pour Damien Perrinel. Pau a été battu par Annecy 1-0. Rodez, c'est imposé 3-1 face à Laval. Boulogne-Nancy, pas de but. Même score 0-0 entre Clermont et Reims. Dunkerque s'est imposé 4-2 face à Grenoble. Metz s'est imposé en renversant les Guingampais 2-1. Et enfin, Montpellier a fait match nul, 1-1 face à Dijon. Messieurs, on va parler donc de l'actualité de ce samedi, évidemment de cette interview qui était attendue. Les premiers mots de Mehdi Benatia depuis qu'il est parti de l'Olympique de Marseille. Une aventure ratée au sein de l'OM, il sera resté 2 ans et demi dans le club. Il est parti en mai dernier et il a donc décidé de se confier à France Football, à nos collègues, avec un titre. Je me suis senti trahi, c'est le titre en tout cas qui a été choisi par nos confrères. Il règle ses comptes avec les joueurs notamment. Il est dépité de certaines attitudes. Il veut pas trop revenir non plus sur tout ce qui a fait aussi un petit peu foirer cette saison marseillaise. On rappelle, lors du premier match, il y a eu une bagarre entre Rau et Rabiot. Il en dit un petit peu, mais il ne veut pas revenir dans le détail sur cette altercation et sur ce qui est arrivé derrière, c'est-à-dire les deux joueurs qui ont été placés sur le marché des transferts. Et puis, il se paye aussi Longoria. On rappelle qu'il y avait le pacte de Miami, Longoria, De Zerbi et Benatia. Et on a bien compris qu'aujourd'hui, il a toujours beaucoup d'estime pour De Zerbi. Et par contre, avec Longoria, il a été extrêmement déçu. Messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de Mehdi Benatia qui a quelques griefs envers certains, mais qui ne se remet pas forcément beaucoup en question. Finalement, on a l'impression que le football 2026, il n'est pas adapté à la rigueur que Mehdi Benatia voudrait. En tout cas, c'est ce qu'il dit dans cette interview.
Non, mais c'est toujours compliqué. Après, c'est le sentiment de chacun. En tout cas, s'il y a une chose qu'on peut ne pas lui reprocher, c'est que lui, il est honnête et il donne sa vérité, comme il a dit. Il semble en tout cas avoir des arguments qui peuvent s'entendre. Hein. C'est vrai que j'en parlais tout à l'heure pour Gauthier Hein dans le vestiaire de Metz. Mais les joueurs aujourd'hui, il faut le savoir, c'est un des métiers où il y a le plus, enfin un des sports où il y a le plus d'argent, en tout cas dans les sports européens, hors États-Unis. Et donc, les joueurs, ce sont des petites entreprises individuelles, avant tout.
Et oui, donc, mais on ne l'apprend pas, ça.
Oui, mais et donc, quand tu es dans un environnement comme l'Olympique de Marseille, eh ben, c'est sûr que ça ne doit pas être un métier facile que d'être directeur sportif ou président. Ça, c'est clair. Parce que, bah, entre les médias, entre les entourages, entre les petites guéguerres internes dans un vestiaire, ça doit être, pour un gars aussi entier, moi je ne le connais pas, mais que semble être Mehdi Benatia, c'est clair que ça doit pas être facile tous les jours. Maintenant, une chose est certaine, c'est que quand tu vois le discours qu'il a tenu avec un certain Jonathan Clauss, bah derrière l'attitude de Jonathan Clauss, que ce soit où il a perdu sa place en équipe de France ou à Nice où il a été joué un barrage à la dernière journée, je m'en vais pas, je reste, je vais pas à Leverkusen, je reviens, et d'autres joueurs comme ça, Eli Wahi, il est venu, il est reparti, bon, c'était peut-être pas une idée de le faire venir, mais en tout cas après ils l'ont fait repartir. Donc je veux dire que aujourd'hui il y a eu quand même beaucoup d'exemples à Marseille. Greenwood, on sait que c'est pas un cas facile à gérer. De Zerbi, on sait que c'est pas un cas facile à gérer, même si je pense que c'était une grosse erreur de ne pas le retenir et de ne pas le contenir à son contrat au moins jusqu'à la fin de saison. Maintenant, je pense que quand tu es à Marseille, il faut avoir beaucoup d'humilité quand on analyse ce club, parce que quand tu es dirigeant dans ce club, tu dois être dans un tel tourbillon que même un gars comme Mehdi Benatia qui a beaucoup de personnalité, il y a un moment où tu dois perdre pied et où tu as envie, c'est clair, de pousser des gueulantes toutes les deux minutes, même si je crois aussi que certaines de ces gueulantes n'étaient pas appropriées ou qu'en tout cas, il s'est trompé, mais je pense qu'il prend aussi sa part de responsabilité.
Tu trouves que dans cette interview, il prend sa part de responsabilité, vraiment?
Parce qu'il dit qu'il a fait des erreurs.
Aux joueurs et au président.
Moi, sincèrement, cette interview, je ne sais pas qui lui a conseillé de la faire, mais je ne la comprends pas.
Pas du tout. Il en sort absolument pas grandi. Et lui qui dit, et il a connu le très haut niveau, qui veut retourner au très haut niveau en tant que dirigeant, si moi demain je suis actionnaire majoritaire d'un club de premier plan, je lis l'interview, je suis pas forcément hyper convaincu et je suis pas forcément sûr qu'elle lui serve. Premier point. J'ai été hyper surpris, surtout moi en tant que financier, d'apprendre que Mehdi Benatia n'était pas du tout au courant de la situation financière du club.
Alors que tout le monde le savait.
Il est director of football, c'est-à-dire que c'est le poste où il est censé créer de la valeur, que l'OM est quand même sous agreement avec lui, que les efforts que lui, Pablo Longoria et Roberto De Zerbi ont demandé à Franck McCourt pour amorcer le plan de 3 ans était connu. Donc, quand lui vient nous dire qu'il y a seulement 6 mois qu'il a pris connaissance de la situation financière dramatique, de l'importance de la Ligue des Champions et du risque financier encouru par le recrutement dispendieux, moi je me dis, est-ce que vraiment, là, j'ai affaire avec ce type de révélation à un directeur de football de haut niveau, où maintenant, avec les nouvelles règles UEFA, on doit avoir un œil sur le terrain, un œil sur le tableau Excel, parce que c'est toujours un calcul d'amortissement, de salaire, de projection de revenus.
Je suis d'accord David, mais ça dépend comment et gérer le club. Je suis d'accord qu'il doit avoir, normalement, moi-même à mon petit niveau, j'ai bien sûr un œil sur la réalité économique du
Exactement.
Club. Ça, c'est certain. Maintenant, je ne sais pas comment sont gérés ce genre de club où il y a des strates avec des directeurs financiers, commerciaux.
Mais encore plus, Kevin. Enfin, dans une entreprise qui fait quasiment 200.
En effet.
Attends, c'est pas que de sa faute. Mais lui, si t'es directeur du football, tu demandes quand même, avant chaque dépense, un reporting très fin en disant, écoute, est-ce que Naïf Aguerd, avec les sommes engendrées, est-ce qu'on peut se le permettre? Je peux pas comprendre ou croire que dans un club comme l'Olympique de Marseille, tu n'es pas à chaque transaction qu'engage des dizaines de millions d'euros un directeur financier ou quelqu'un qui te dit là tu peux foncer là
non, mais s'il l'a fait c'est qu'on lui a dit qu'on pouvait
là,
le faire
là il faut ralentir
non mais s'il l'a fait c'est qu'on lui a dit qu'il
mais en fait depuis 2016 lorsque McCourt a racheté le club chaque année il y a un déficit net à la fin de l'exercice financier et ça chaque année c'est effectivement officiel
comme quasiment tous les clubs
voilà
de Ligue 1.
Et le déficit net de la saison 2024-2025, il est historique. Il n'avait jamais été aussi important. Et depuis des années, on sait très bien que Marseille peut continuer à ambitionner d'être en Ligue des Champions, en faisant des mercato, etc., en ayant des prêts et en vivant en fait à crédit. Mehdi Benatia ne peut pas le découvrir vu que tout le monde le sait et qu'à chaque fois on disait ils sont obligés d'être des champions, sinon ils sont très en difficulté, un discours où
il te dit il faut respecter l'actionnaire et c'est exactement le rôle d'un directeur du football. Le rôle d'un directeur du football, c'est de faire fructifier chaque euro que l'actionnaire injecte dans le club. Donc d'un côté, en fait, il a ce discours mais qui est rempli de responsabilité, qui te dit moi mon rôle c'est de, il faut respecter l'actionnaire, c'est de faire attention aux investissements de l'actionnaire, et d'un autre côté il dépense de façon parfois inconsidérée et il te dit qu'il n'était pas au courant. Et moi le deuxième point,
il n'était pas au courant
de l'état des finances de l'OM. Et le deuxième point, c'est se désolidariser de sa hiérarchie et de ses collègues de travail. Franchement, moi je trouve pas ça très fair play.
Non, mais
moi
c'est
je
pas
trouve que en fait, si tu veux, j'aurais aimé que Mehdi Benatia il ait le courage de faire une interview, mais une interview vérité, où il fait vraiment son autocritique, où il fait son bilan, avec les plus, parce qu'il y a beaucoup de plus. Je trouve qu'il a modernisé le club, il a fait des bons coups sur le mercato, il a un réseau incroyable, et de par son réseau incroyable, il a réussi à attirer des joueurs qu'auraient jamais même pensé venir à l'OM, et les moins, la communication, la gestion financière, l'agressivité. Et en fait, ça lui aurait vraiment servi, je pense, dans son parcours professionnel. Et ça aurait été une interview où je me suis dit, il a vraiment appris quelque chose. Il a atteint la maturité que les postes auxquels il va postuler demandent.
Peut-être, après, je ne sais pas s'il restera dans le foot, hein, l'avenir le dira. Une chose est certaine, tu as dit qu'un directeur du football, il est là pour faire fructifier l'argent de
son action. Attention, en tout cas.
Je ne suis pas sûr qu'il est là pour faire fructifier l'argent. Pour moi, le directeur du football, hein, on ne parle pas d'un directeur financier, on ne parle pas d'un directeur général, c'est un directeur du football. Mmh. Attention, c'est-à-dire ça se rapproche plus du directeur sportif que du directeur général. Absolument. D'un club. D'accord. Aujourd'hui, Olivier Létang, c'est un directeur général. Uh-huh. En plus, il a fait des études dans la finance, etc.
Donc, il est peut-être pas forcément formé non plus.
Je ne sais pas s'il est formé. Je te dis que c'est deux rôles différents. Uh-huh. Olivier Létang à Lille, c'est plus Pablo Longoria, président de l'institution, le développement de la marque. D'accord. Donc, quand je te dis, je ne suis pas d'accord avec toi quand je te dis qu'il est là pour faire fructifier forcément l'argent. Il est là pour être le tampon. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois ce job. Pour moi, le directeur du football, le directeur sportif, il est là pour être le tampon, vraiment, le lien et le tampon entre la direction et le technique. Entre le technique et la direction.
Pour moi, c'est le rôle de Pablo Longoria, ça. Entre non. l'action, le, non, non. C'est le rôle du directeur général. Kevin, non, comment tu crées de la richesse actuellement à l'Olympique de Marseille? C'est via les prize money, donc le classement que tu atteins, et via les droits de mutation des joueurs.
Le directeur du football, il est là pour essayer d'aller chercher des joueurs pour que le rectangle vert fonctionne. Mm-hmm. Car si le rectangle vert fonctionne, normalement dans le foot, la machine à billets fonctionne. Mais c'est pas la machine à billets qui va faire fonctionner le rectangle vert. C'est là où les clubs se trompent. Les clubs qui pensent que je vais faire fonctionner la machine à billets, ça va faire marcher le rectangle vert, non. Je vais faire marcher le rectangle vert, s'il faut faire des dépenses, c'est pour le rectangle vert. Et ensuite, c'est ce que le terrain. Non, tu me dis qu'il est là pour faire fructifier les euros.
Via des investissements pertinents.
Non, via. C'est pas les investissements. Pertinents. C'est pas les investissements. Là, on n'est pas dans le monde de l'économie d'abord. On est d'abord dans le monde du sportif. Mm-hmm. Un investissement, il peut être intéressant financièrement. Tu peux acheter un joueur 10 millions, le revendre 13, et il a été catastrophique sur le terrain, mais le marché avec, tu l'as revendu 13. Okay. Donc, c'est pas pour ça que le terrain sera forcément bénéfique. Par contre, en général, un joueur que tu l'as acheté 10, 20, 25 ou 45, si tu mets 40 buts, il va être rentable.
Mais on est complètement d'accord.
D'accord. Donc je te dis que d'abord, le rôle de Mehdi Benatia, le rôle d'un directeur du football, c'est que le terrain fonctionne. Et qui est sur le terrain? Qui sont sur le terrain? Ce sont les joueurs.
Qui l'a choisi?
D'accord. Qui l'a choisi? Certes, pas tout seul, avec un staff.
Oui, mais il est responsable, en fait, à la fin.
Avec un président. Mais tu sais que dans un club, tu ne choisis pas les joueurs tout seul. Moi, je suis pas là pour défendre Mehdi Benatia.
Non, non.
Je suis là pour essayer de décrypter sa communication. Moi, je pense qu'en effet, pendant sa période à Marseille, on l'a dit, notamment après Lorient, il y va fort, il est dans l'émotion. Ne jamais réagir dans l'émotion, dans quelconque situation que ce soit, notamment quand tu es dans une situation de manager général ou de management tout court. Ça, c'est un conseil. Des fois, on y arrive, des fois, on n'y arrive pas. Ça peut arriver à tout le monde. On reste que des humains. Mais par contre, que là, à froid, il puisse avoir cette analyse. Moi, j'ai dit souvent, quand on parle de Marseille, il ne faut pas dédouaner les joueurs. Ce ne sont pas que à cause des joueurs. Mais il faut aussi mettre les joueurs devant leurs responsabilités. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans le football, c'est une république des joueurs, à part au Paris Saint-Germain, qui a connu une république des joueurs qui ne fonctionnait pas. Et pourtant, c'était les plus grands joueurs du monde, qui avaient les plus grands salaires du monde. Ça ne fonctionnait pas. Quand le club, quand le directeur du football et l'entraîneur, manager et un peu général, a réussi à reprendre les manettes, c'est là où le club a fonctionné. Et donc, je te dis, pour finir, dernière phrase, Mehdi Benatia, je ne sais pas, je n'étais pas au quotidien avec lui, il a sûrement fait des erreurs, il n'y a pas de souci, je pense que...
Et des bonnes choses.
Non, mais on parle des erreurs. Il a fait aussi des bonnes choses, mais il a sûrement fait des erreurs. Mais quand il dit que les joueurs ne sont pas à la hauteur de l'investissement qu'on place en eux, je pense que pour une grande majorité, il a raison.
Mais en fait, Kevin, j'ai posé une question.
Ils ont fait l'erreur avec Rabiot, ils ont fait l'erreur de laisser partir des Herbis, ils ont fait des erreurs, je ne dis pas ça.
Focalisons-nous sur l'interview. Qu'est-ce que t'as appris de cette interview? Qu'est-ce qu'elle t'a apporté que tu ne savais pas? Parce que c'est le but. Moi, quand on Karine hier en pleine émission m'a dit interview de Mehdi Benatia, moi je me suis dit
il a juste vidé son sac là.
Mais ça sert à rien, Kevin.
Non, mais ça, je suis d'accord que ça sert à rien.
C'est pas à la hauteur de son intelligence.
Il a encore plein de ressentiments, on a l'impression.
En fait, c'est ça que je comprends pas.
Il en veut à la terre entière.
À la rigueur que
il en veut aux joueurs,
parce que mais les gars et Karine, là tu vois bien que c'est un humain. Un sportif blessé qui aimait un club, qui avait envie de réussir avec ce club et qui sort de la plus grosse catastrophe des 15 dernières années, peut-être pas des 15, mais des 10 dernières années de l'OM.
Peut-être
alors
pas.
Qu'à la base, il était plein de... Non mais si,
mais
des Herbis qui s'en va.
La 8e place,
d'accord,
vois,
mais des Herbis qui s'en va, les dramas, lui s'en va, il revient, ça reste quand même une épreuve.
Oui, c'est
humaine
une épreuve.
Et une épreuve professionnelle traumatisant.
Mais ce que
c'est
je veux dire,
là, c'est un gars traumatisé qui a envie de vider son sac parce qu'il trouve qu'il y en a qui s'en sortent trop bien. C'est ce qu'il veut dire. Quand il dit, ouais, les mecs, tu les vois là en stage, ils rigolent et tout.
Mais il a déjà dit ça. Oui, mais en fait, il l'a déjà dit.
Kevin, mais je veux dire,
vous me demandez. Moi, je suis pas en train de vous justifier. Vous me demandez pourquoi il le fait. Il le fait pour vider son sac.
Mais moi, je trouve ça décevant.
C'est qu'en fait,
tu peux le trouver décevant.
Je trouve cette interview décevante.
Faudrait savoir ce qu'en pensent les supporters de l'OM.
Justement, on a Samy, supporter marseillais, qui est avec nous. On va l'accueillir. Il est au 32-16 sur RMC. Bonsoir, Samy. Samy ?
Ah, du coup, Samy,
lui
aussi.
Il a coupé la chic.
Lui aussi, Samy.
Samy, on va peut-être le retrouver. Non, mais moi, ce qui me surprend, je vais caricaturer, mais en fait, ce qu'il nous dit sur les joueurs, on dirait, tu sais, les supporters, quand t'es au vélodrome, quand j'étais même jeune au vélodrome, ils disaient, mouille le maillot, casse-toi. En fait, il nous dit des choses basiques sur les joueurs, genre, ils sont pas assez pros, alors qu'il nous a expliqué qu'il y avait eu beaucoup de transferts, parce que, de toute façon, c'était la politique de Longoria, et c'était une réalité. Marseille, c'était un aérogare de Marignane, et qui changeait les joueurs parce qu'ils n'avaient pas la mentalité OM. Donc, qu'il avait trouvé les bons joueurs. Mais en fait, vu que ça a été un échec sur le terrain, et vu que lui-même il dit qu'il a vu des attitudes inadmissibles de la part des joueurs, les joueurs qu'il a ciblés n'avaient pas la mentalité et le professionnalisme qu'il leur demandait. Donc, les joueurs qu'il a voulu, il ne les avait pas bien cernés.
Mais ça, il te dit que lui, il doit agir. Enfin, là, je vais un peu le défendre là-dessus. Lui, il te dit, ouais, mais... il doit agir dans la rapidité, il devait remplir des postes rapidement, il n'avait pas vraiment le temps de faire un vrai test de personnalité. Mais moi, encore une fois, si je suis dur avec lui, c'est parce que je pense vraiment qu'il réunit énormément de qualités d'un excellent directeur sportif. Mais pour aller plus haut, pour aspirer au poste auquel il aspire, je m'attendais à vraiment plus d'introspection, moins d'agressivité, moins de rancœur, plus de prise de recul. J'imagine pas un Michael Edwards, un Roberto Labbé, un Fabio Paratici avoir une telle sortie 2-3 mois après une séparation qui certes a été déchirante. Donc moi je la trouve très humaine, mais peut-être trop humaine et pas assez réfléchi par rapport à la carrure et à la carrière que pourrait avoir Mehdi Benatia s'il ajoutait vraiment quelques cordes à son arc. Donc, bien évidemment, Pablo Longoria n'était pas du tout au niveau d'un DG de l'OM. L'OM est invisible dans les instances.
C'était un poste qui a explosé en plein vol.
Mais c'était un poste qui était complètement démesuré pour lui. Mais Mehdi Benatia, il a énormément de qualités qu'on a énumérées.
Mais il fait partie du fiasco au même titre que Longoria,
il doit
au même titre que De Zerbi.
Parce qu'il a des circonstances atténuantes.
Les trois sont responsables en fait. Lui est resté. C'est la seule chose évidemment.
Et il est resté. Contraint forcé.
Non mais attends, il y a une grande différence quand même. Longoria, il a filé, il est parti en Argentine.
Je pense
et De Zerbi, il est parti à Tottenham. Oui, d'accord. Oui. Longoria et moi c'est la seule chose que je lui reconnais, c'est qu'il est resté jusqu'à la fin de la saison alors qu'il aurait pu réellement partir au moment où il a fait sa démission.
Mais c'est quelqu'un qui a des principes, ça c'est principe.
C'est le seul qui est resté jusqu'au bout et qui est resté jusqu'au la fin du fiasco. Samy avec nous, on l'accueille, supporter marseillais au 32-16 sur RMC. Bonsoir Samy.
Oui, bonsoir, là vous m'entendez ?
On t'entend, oui, on t'entendait pas il y a quelques minutes. Samy, t'as lu cette interview fleuve de Mehdi Benatia, qu'est-ce que tu en ressors ? Est-ce que tu es réconcilié avec lui ? Est-ce que tu le défendais depuis le début ? Voilà, quelle est ta position ?
Alors, bonsoir Karine, Kevin et David déjà. Et moi, personnellement, je suis un peu mitigé, je me mets à cheval entre David et Kevin. Il y a beaucoup de choses. Déjà, je pense que la saison dernière... elle est passée à peu de choses. Ça aurait pu être une bonne saison, ça aurait pu être une très bonne saison, mais entre les buts pris à la 92e, 89e, le trophée des champions contre le PSG qui part au pénalty, la saison, elle peut avoir plusieurs visages, mais bon, c'est le football, c'est comme ça. Par contre, Mehdi, moi je me rappelle, j'avais appelé il y a un an de ça, c'était avant Bruges, une semaine avant Bruges, et je commençais à avoir des réticences envers De Zerbi et son management. Il changeait de poste tous les joueurs, il voulait faire du Luis Enrique, mais on comprenait pas trop. Et une semaine après, le triumvirat avait volé en éclats. Et au début, moi j'ai défendu Mehdi Benatia, parce que il avait ramené des gros noms, on n'avait pas l'habitude. Ça faisait des années qu'en tant que supporter marseillais, on n'avait pas l'habitude d'avoir des noms comme ça sur le terrain. Donc on s'est dit Ligue des Champions, grosse équipe, même le banc il était beau. Des joueurs comme Pavard, Greenwood, bon même s'il faut aller le chercher parce que histoire, etc. Mais Pachao qui vient avec un 25 millions, voilà. Donc on avait une belle équipe. Donc voilà, on va concurrencer le PSG, on va faire quelque chose en Ligue des Champions, on veut gagner la Coupe de France. Au début c'était parfait. Mais après... là oui, bah, il a complètement craqué. Il est dans l'émotion. C'est ça que je reproche. C'est que c'est un nouveau directeur sportif. Alors Kevin, il fait ce travail, donc il pourra peut-être me renseigner. Mais comment on fait, du coup, comme disait David, pour lier les bons coups, c'est-à-dire repérer le bon joueur qui va faire du bien à ton équipe, qui va apporter quelque chose, une plus-value, et en même temps faire en sorte de pas trouer la caisse de ton club. Comment on fait pour faire ça? Il faut être deux, il faut être trois.
Non, mais il y a une faillite, ce qui est sûr.
C'est la faute des deux, Longoria Benassia.
Ah non, mais c'est une faillite du club, de l'organisation, de Franck McCourt aussi. Franck McCourt est complètement responsable d'avoir laissé dériver les finances à ce point. Et je vais pas du tout l'exonérer. C'est-à-dire que combler le déficit d'exploitation tous les ans ne t'exonère d'aucune responsabilité dans la tenue financière de ton club.
Des gens aussi en poste.
Dans le sport de haut niveau, pour répondre à Samy, c'est très très difficile parce que tu sais le joueur, peu importe le niveau, je pense, surtout à l'Olympique de Marseille, tu ne le découvres quand il franchit le pas de la commanderie. Tu peux dire ce que tu veux, tu l'as scouté, tu l'as rencontré, t'as vu les vidéos, tu l'as vu au stade, t'as envoyé trois mecs le voir. Le gars, tu ne vas vraiment le découvrir quand il passe la porte du centre d'entraînement.
Quand il rate deux occasions au Vélodrome.
Quand il rate deux occasions à la commanderie, quand ça commence à parler, quand tu vois qu'il baisse la tête, quand tu vois qu'il n'est plus numéro un à son poste, mais peut-être numéro deux, quand il va au Vélodrome, quand celui, il écoute peut-être pas, mais ses proches écoutent RMC et ceci, et Pavard, il a beau avoir joué au Bayern, mais au Bayern, bah, c'était en allemand, la radio, c'était pas en français, il n'y avait pas toute sa famille qui écoutait, ou Roten, ou Lafter, ou David Griezmann, ou un tel. Et donc, en fait, il se crée, je pense, quand même à Marseille, comme dans certains grands clubs français, mais à Marseille notamment, et surtout, une espèce de boule de neige qui fait que le joueur, eh ben, quand il arrive en bas de la pente, eh ben, il a pris beaucoup, beaucoup de neige dans le nez et dans la figure, tu vois. Et donc, il y a un moment, ça explose. Et pour le directeur sportif et le président, c'est pareil. Mais ce qui est sûr, c'est que ce soit à Marseille, et je finirai là-dessus, ou dans n'importe quel grand club, eh bien, si la direction de l'actionnaire, en passant par le président, le directeur sportif et le staff technique, si tout le monde n'est pas aligné, c'est très très difficile de garder le cap.
Ah, initialement,
oui,
par exemple, pour moi, le séisme de la saison, et c'est complètement dingue de le dire, c'est le premier match de la saison.
C'est évident.
Tu perds un des meilleurs joueurs de la dernière Coupe du Monde qui était par anomalie à Marseille.
Attends,
et tu perds même un Jonathan Rowe qui était un bon joueur.
Qui va être vendu 4 fois le prix. Mais voilà.
C'est complètement catastrophique.
Tu vois ça, en fait, si tu veux. Et j'avais déjà eu l'occasion d'en parler, Samy. Je fais juste 30 secondes dessus. Ça découle aussi d'une stratégie volontairement mise en place, du seul contre tous, du documentaire qui est plein de testostérone, où tu arrives et en fait tu en fais et refais des tonnes de l'institution. Donc t'as cet incident et t'es piégé d'un côté en te disant j'ai tellement répété qu'il fallait être exemplaire, j'ai tellement répété qu'on allait être une institution, que même un incident aussi grave soit-il, je suis obligé de sanctionner. Et donc t'es obligé de te flinguer parce que t'as trop parlé, parce que t'es peut-être un peu immature dans la communication.
C'est pour ça qu'il faut pas trop parler.
Et, merci.
C'est ça, exactement.
Samy,
si je peux rajouter une petite dernière chose.
Oui, bien sûr, on t'écoute.
Merci beaucoup. C'est que, exactement, en fait, au début, cette espèce d'état d'esprit militaire qui a voulu instaurer Mehdi Benatia, ex-joueur du Bayern, Juventus, etc. Moi, je me suis dit, voilà, les mecs, ils vont porter le maillot. Et puis souvent, ils nous disaient, oui, vous savez, nous, on gagne beaucoup d'argent, on doit être heureux d'être ici, etc. Donc, on doit mouiller le maillot, il n'y a pas d'écart qui est permis. Mais du coup, moi, j'attends la même chose de sa part, par la suite. Et quand tu fais ça à Rabiot, je me dis, bon, aïe, 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 ça fait mal. C'est grâce à lui qu'on s'est qualifié en Ligue des Champions, à tout le groupe, mais il a été au moins un des trois meilleurs joueurs de la fin de saison.
Non, c'était le meilleur joueur de l'équipe.
Voilà, clairement. Bon, après, tu sais très bien, Kevin, c'est un tout, mais bon, il marquait beaucoup, il était haut sur le terrain, il défendait, il avait la grinta, il a même sublimé Hulsberg qui était à côté, etc. Il tapait du poing dans le vestiaire. Mais quand on me dit, oui, non, c'est le principe, maintenant, Marseille, c'est comme le Bayern, c'est comme le Real, c'est l'institution, on s'en fout. Okay.
Bon, Bayern, moi, j'ai connu Lizarazu qui mettait des claques à Effenberg.
Des joueurs qui se battent, ça arrive dans tous les vestiaires. On l'a vu encore au Real Madrid cette année, par exemple. C'est pas nouveau
voilà,
non plus.
Voilà, tout simplement. Après, il est peut-être jeune. C'est son deuxième poste, tu crois, dans un club. En tout cas, le premier en tant que.
Premier, mais il a été propulsé directeur du football d'un club qui est top 20, 25, 30 européens. C'est vrai que c'était ultra prématuré. Et Longoria était très novice. Et De Zerbi a un bâton de dynamite ambulant. Et McCourt est absent. Donc, forcément, si tu mélanges tout ça, t'avais le cocktail qui était quand même assez. T'es prêt à exploser.
Oui, mais aussi, la grande différence, c'est que tu pouvais arriver à l'OM dans un club qui, effectivement, très médiatisé, sans dire, parce que c'était quand même aussi le discours de Longoria et de Benatia, on va remettre de l'ordre, on va mettre et du professionnalisme. Là, il est encore dans son délire. À Marseille, il n'y a que de la médiocrité. Marseille, une histoire. Tout n'est pas bien fait, d'accord, mais tu peux pas arriver non plus dans un club en disant que tout ce qui a été fait avant, tu dois le brûler.
Non,
et tu
c'est pas ce qu'il a dit.
Pardon, alors là, il parle encore de médiocrité en disant qu'à Marseille, la médiocrité est toujours implantée. Il le dit dans l'interview, là.
Non, mais
et à Marseille, il y a des erreurs comme dans tous les clubs. Mais en fait, ils sont arrivés avec des dogmes qui, après, leur collent à la peau.
Il pourrait tellement sortir par une autre porte. C'est ça, en fait, qui m'énerve, qui m'enquiquine un peu. C'est que c'est un mec qui est intelligent, qui nous paraît être intelligent.
Non, il est intelligent, c'est sûr et certain.
Non, oui, voilà. Donc, il est intelligent. Alors après, c'est vrai que les caméras, la pression, etc., on se comporte pas de la même manière. Mais pour moi, alors est-ce que à ce niveau-là, je pense qu'ils sont conseillés. Est-ce que on leur dit fait ci, fait ça. Ils devraient sortir par
après,
une autre
porte. Après, il y a une intelligence qui est importante, c'est l'intelligence émotionnelle. C'est celle qui te permet de garder ton calme en toutes circonstances. Et ça c'est plus compliqué quand tu fais ces métiers-là avec autant d'exposition. Et c'est pour ça que je dis, moi j'excuse rien, mais par contre c'est clair que comme a dit David, cette interview elle sert pas à grand chose. Je suis pas sûr que ça te permet de redorer ton blason.
En plus, des fois
j'ai envie de te dire que le silence est le meilleur des conseillers. C'est-à-dire que laisse parler les gens. De toute façon les gens n'aiment pas les gens aiment seulement parler sur les gens,
générationnel, non, tu penses pas que c'est un problème générationnel aussi,
c'est-à-dire
ça, je pense, c'est-à-dire que je trouve que les moins de 45 ans qui sont plus enclins à être tous les jours sur les réseaux ou avec leurs enfants peut-être qui sont jeunes etc ou à écouter ce qu'ils disent sont plus émotionnels à ça. Moi j'ai l'impression qu'il est dans ça.
Moi je pense c'est une question d'ego aussi et pour faire ce boulot il faut avoir un ego mais surdimensionné. Il l'a mais a raison aussi parce qu'il a fait une carrière remarquable, il a un réseau remarquable.
Bien sûr,
mais parfois je pense sincèrement qu'il serait sorti grandi de laisser couler. En plus le format de l'interview s'y prêtait. On peut pas dire qu'il était challenge.
Ce que tu dis, c'est important parce que bien sûr, il faut avoir de l'ego pour faire ces postes à responsabilité, notamment dans un grand club comme l'Olympique de Marseille. Mais quand tu es manager, que ce soit entraîneur ou directeur sportif, il faut aussi savoir que tu peux plus rien faire tout seul. C'est pas toi, t'es plus joueur. C'est pas toi qui va aller marquer les buts. C'est pas toi qui va aller défendre et tacler et tirer un maillot de façon intelligente. Là, tu as besoin des autres pour te permettre de gagner. Et sans les autres, tu n'es rien. Et ça, c'est ça qui est difficile aussi pour un ancien grand joueur, qu'il soit entraîneur ou directeur sportif.
On l'a vu avec Thierry Henry,
c'est de dépendre des autres et de dépendre de personnes qui n'ont pas ton éthique de travail. Et ça, c'est compliqué. Il faut arriver à tirer tout le monde avec toi. Et c'est ça aussi qui est difficile quand tu as l'exigence d'un Mehdi Benatia ou de certains autres, même d'un Roberto De Zerbi, qui a beaucoup d'exigences avec lui-même, mais qui, des fois, ont du mal à emmener les gens avec eux parce que certaines personnes n'ont pas ta motivation, n'ont pas ton éthique de travail. Et c'est ça qui est difficile dans ces métiers-là.
T'as côté omnipotence, omniprésence aussi. C'est vrai que là, il le disait lui-même. J'assiste à toutes les séances d'entraînement. Je vais énormément.
Des fois, faut savoir lâcher.
Il faut savoir déléguer. Il faut savoir lâcher. Il avait énormément d'idées. On voit au niveau de la post-formation, excuse-moi, le coup qu'il fait avec Vaz, il est extraordinaire. Alors, même s'il y a eu l'annonce, Bacola, Vaz, on va construire. Il fait quand même 35 millions de plus-value comptable sur des mecs qui n'ont même pas 30 matchs combinés. Donc,
il a vendu 25, je crois, Vaz.
25 Vaz et 10, 15 Bacola. Donc, quasiment 40
et
millions.
Et Vaz, à Rome, ça a été?
Non, bah pourquoi je me regarde moi?
Non, mais je veux dire, non mais
je torse sur Montpellier, mais on va pas mettre Vaz sur le dos.
Non, je te parle pas pour toi.
Je
veux dire que en plus, il a pas vendu un produit non plus.
Il a pas vendu un produit fini, ça c'est
vrai. Voilà. Exactement.
Mais donc, David et Kevin, je me permets.
Bah vas-y, c'était 20%.
Est-ce que vous pensez honnêtement, avec votre œil de spécialiste, est-ce que vous pensez que si le trio là a plus de sang-froid, comme tu dis, Kevin, et résiste aux critiques, etc., aux résultats, et se mettent ensemble et tiennent jusqu'à la fin de saison, est-ce que vous pensez qu'on a le même résultat à la fin?
Mais non, mais moi je l'ai dit et je le répète, on ne sait pas parce que
deux Herbie ne devait pas partir.
Ça reste de la fiction. Hein. Peut-être qu'ils auraient fini relégables, j'en sais rien, j'exagère. Ouais. Mais je veux dire que malgré tout ça, malgré toutes ces péripéties, ils sont à un but de Trubine, à Benfica, d'être qualifiés. Ils sont à 15 secondes et une occasion énorme de Aubameyang dans le trophée des champions, de gagner un trophée.
Contre Toulouse, tu sors de façon improbable. De
peut-être tourner un peu la saison, t'as gagné un trophée et derrière, bon, il y a un peu plus de confiance. Donc en fait, même avec toutes ces catastrophes-là, ils sont... sur certains matchs, ils battent le PSG, même si c'est la soirée Ballon d'Or, pas Ballon d'Or. Ils sont à quelques cheveux, même comme ça, de réussir des trucs cohérents.
Lens, c'est une vraie prestation. Le Real, c'est une vraie prestation.
T'as eu aussi le pire résultat dans un classique 5-0, et même Mehdi Benassia le dit, ça aurait pu être 9-0. Et tu as une équipe qui est incapable de prendre un point sur les derniers matchs de groupe de Ligue des Champions, alors que la qualification, tu l'as vu, c'est pas la forme de Trubin.
C'est Liverpool,
c'est aussi l'Atalanta où il y a une main, mais qui tous les jours.
Tu fais un match aux femmes aussi.
Je veux dire qu'il y a plein de moments dans la saison qui auraient pu tourner pour l'OM.
Oui.
Mais ils n'ont pas tourné pour l'OM et il y a le séisme. Le premier tremblement de terre, c'est Rabiot dans le vestiaire après Rennes. Et le deuxième tremblement de terre, c'est que tu dois jamais laisser partir des herbies. Tu dis, écoute-moi bien, tu veux partir, tu nous dois tant. Tu fais le chèque et tu t'en vas. Mais sinon, tu finis la saison.
On a trop mis en valeur la testostérone de Deserbi, le Cristiano.
On a mis en valeur. Mais c'est l'OM, ça.
Oui, mais t'as pas besoin.
Il y a des entraîneurs qui ont réussi à marquer, qui n'étaient pas dégueulasses.
Quand le gâteau est déjà sucré, tu n'y vas pas avec la sucrine. C'est déjà une ville.
Mais la première saison, elle est très bonne.
Non, elle n'est pas très bonne.
Elle n'est pas très bonne.
Tu finis deuxième avec une moyenne de points décevante, tu joues pas la Coupe d'Europe.
Alors elle est pas très bonne, elle est bonne.
Elle remplit les objectifs.
Voilà, merci.
Donc aujourd'hui, pour un comptable, remplir les objectifs, c'est bon.
Elle est satisfaisante.
Elle est très bonne.
Messieurs, est-ce que tu seras au Vélodrome face à Strasbourg?
Non, malheureusement. En plus, là, je suis en vacances dans le sud, mais après, je pars ailleurs.
Malheureusement, à Bastogne non plus.
Moi, je suis pas Marseillais. Moi, je suis pas loin de chez Kevin. Moi, je travaille dans les bus, pas loin de chez Kevin. Je suis même pas Marseillais.
Où ça?
Moi, je travaille au dépôt de Saint-Maur, Créteil, RATP.
Ah, ok. Bah, écoute.
Je passerai devant
ce soir, je te ferai un klaxon.
T'es pas à côté, en tout cas, profite de tes vacances dans le sud et on te souhaite une belle saison à l'écoute d'RMC. On rappelle que la reprise de la Ligue 1, c'est le 21 août et ça sera en ouverture, donc Marseille-Strasbourg dans quelques instants.
Ils sont très bons, les Saint-Mauriens quand même. Il y a quelque chose, il y a de la qualité.